Nous sommes de retour sur l'esplanade du MUCEM pour la deuxième partie du plateau radio de Flotta. Pour rappel, une manifestation au sud de Lampedusa et partout en Méditerranée, en mer et au sol, contre la forteresse Europe et pour la liberté de circulation. Nous sommes toujours en direct sur Radio Galère 88.4. Merci à LE de nous soutenir, de nous diffuser et de nous accompagner à la technique. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Je suis Coco et nous allons co-animer ce plateau avec Lei.
Et bonjour, on continue donc cette série de plateaux intitulée « Frontières en Méditerranée, résister, ouvrir des brèches » où l'on parle des enjeux de frontières et aussi de solidarité autour des traversées en Méditerranée. Donc dans la partie précédente, vous avez entendu des camarades présenter les politiques d'externalisation des frontières dans les pays de départ. Or, ces politiques ont des conséquences très concrètes. Ce sont celles des conditions de traversée dans lesquelles vont partir les personnes qui souhaitent rejoindre l'Europe. On va parler maintenant, avec nos invités, des moyens et des outils qui sont mis en place pour protéger la forteresse Europe et pour empêcher les personnes en mouvement de circuler, mais aussi des stratégies de lutte contre cette guerre aux frontières. Et puis, dans un dernier temps de ce plateau sur la traversée, on va vous proposer d'élargir la discussion aux enjeux industriels et impérialistes qui se lisent en creux de cette militarisation accrue de la Méditerranée.
Dans cette première partie de plateau, nous allons faire un point pour se repérer un petit peu dans l'espace, puis dans le temps. On rappelle que ce plateau se focalise sur la Méditerranée centrale en écho avec l'initiative Flotta, mais qu'il existe plein d'autres routes migratoires qui ont chacune leur spécificité et qui ont tout en commun le fait de devenir de plus en plus mortelles. On va donc parler de la découpe de la Méditerranée centrale en zone de recherche et de sauvetage, la zone SAR, des décrets qui ne cessent de limiter de plus en plus les opérations de sauvetage et des conséquences directes sur les personnes concernées par la traversée. Pour cela, sur le plateau, nous avons Mathilde d'Alarmphone, Lucie, ex-matelot de Sea-Watch et Ada. Bienvenue, bonjour à vous toutes. Et puis avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter un petit bout de l'épisode 12 de Chronique amère, qui est une émission des camarades d'Alarmphone. Vous pouvez également écouter sur Radio Galère. Je vous laisse découvrir le témoignage de Shamseddine pendant sa traversée.
Shamseddine et Mariam se parlent d'un bout à l'autre du téléphone.
Ça fait près de 24 heures qu'Alarmphone est en contact avec un bateau en détresse en Méditerranée centrale, dans la zone SAR maltaise. Sans surprise, les autorités n'ont lancé aucune opération de secours et Malte refuse de nous donner des informations. Devant leur inaction, l'équipe de shift précédente a tenté de contacter un navire marchand à proximité.
Nous avons quitté la Libye, précisément de Benghazi, la nuit du 22 au 23 décembre. Nous étions 17 personnes.
19h21. Les personnes à bord peuvent voir un avion au-dessus d'eux.
Ils sont capables de nous envoyer les avions, plus de 4 avions, qui est en train de nous filmer au-dessus de nous. Mais ils sont incapables d'envoyer un bateau nous secourir. Il y a les gens qui sont en train de, qui sont mourants. Plus de 4 jours, on est sur la Méditerranée. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a ni de l'eau.
20h50. Je continue de transmettre les positions GPS aux autorités. Au téléphone, l'officier maltais ne veut toujours rien me dire, voire ne répond pas au téléphone.
Thank you for calling Joint Operation Center. This call may be recorded.
Le bateau marchand s'est approché de nous. Il y avait beaucoup de la lumière. On était vraiment contents. On s'est dit qu'il allait être secouru.
Je vois sur mon écran que le Pacific Victor s'éloigne et reprend sa route. À bord du Zodiac, les personnes ne voient plus aucune lumière.
Après, on voit la lumière, c'est diminué. C'est rentré en arrière doucement, doucement. Comme c'était la nuit, la lumière disparaîtrait doucement, 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 doucement. Et c'est comme ça que ça a parti, ça a disparu. Et tout le monde était découragé. Et on n'avait pas... C'est-à-dire, l'espoir avait fini. On ne sait plus quoi faire. On est sur la mer, le moteur ne travaille plus.
5h07. Communication avec les personnes à bord.
Nous sommes en train de mourir. Je n'ai pas bu de l'eau depuis 2 jours, s'il vous plaît. Ne nous abandonnez pas. Aidez-nous, s'il vous plaît.
Plus tard, on apprendra que si le cargo ne les a pas secourus, c'est que Malte ne lui a pas demandé d'intervenir. Il est resté en attente, à proximité pendant des heures, mais l'ordre de procéder au sauvetage n'est jamais arrivé. À 13h, soit près de 36 heures après que la première alerte a été lancée, un autre navire marchand se dirige vers le bateau en détresse. 6 heures plus tard, à 19h, on apprend que les personnes ont enfin été secourues. Elles sont à bord du cargo et vont être amenées à Malte.
Et effectivement, le bateau est venu près de nous. On est avancé aussi parce que c'est la vague de la mer qui nous a porté. On n'avait pas le moteur. On est parti jusqu'à coller à côté d'eux. Tout le monde était content. Même les gens qui sont malades étaient réveillés.
Ce témoignage, il est hyper intéressant, il nous parle de surveillance massive, il nous parle aussi de l'inaction des autorités, surtout de Malte, dont on aura l'occasion de parler un peu plus tard. Et Mathilde, est-ce que tu pourrais nous raconter quelles sont les routes de traversée dans cette zone et dans quelles conditions elles se font pour les personnes en mouvement ?
Alors, il y a plusieurs routes de traversée depuis la Tunisie et la Libye. On va d'abord parler de la Tunisie. Par rapport à la situation dont on a entendu Djihad parler un peu plus tôt, il y a beaucoup, beaucoup moins de traversées qu'il y a 2 ans, du fait de la répression sur les zones de départ et du grand nombre d'interceptions par les gardes-côtes tunisiens. Les personnes qui arrivent encore à traverser, elles le font sur 2 types de bateaux. Le premier type de bateau, c'est ce qu'on appelle des rubber boats. Alors, ce serait vraiment abusif de les traduire par des zodiacs. C'est vraiment des bateaux gonflables de caoutchouc de mauvaise qualité. Et l'autre type de bateau, c'est ce qu'on appelle des iron boats. C'est des bateaux en métal qui sont construits exprès pour ces traversées, qui sont en fait un assemblage de tôles vaguement soudées, parfois même collées, qui ont donc tendance à se disloquer d'un coup et à provoquer des naufrages. L'autre chose, c'est que ces bateaux sont souvent assez mal équipés. Ils n'ont pas forcément assez de carburant, les moteurs sont de mauvaise qualité et du coup, ça arrive régulièrement qu'ils aient des problèmes et ils n'ont pas de téléphone satellite à bord pour prévenir les secours. Du coup, ces derniers mois, ça arrivait plusieurs fois, par exemple, qu'il y ait des iron boats sur lesquels il y a plusieurs dizaines de personnes, c'est environ 50, 60 personnes. Parfois un peu plus, qui se perdent pendant des jours, pendant 4 jours, pendant 5 jours, et qui sont éventuellement par chance trouvés par des bateaux de la flotte civile qui sont dans cette zone. Et alors ensuite, pour parler de la Libye, alors la Libye c'est un grand pays qui a vraiment une côte très longue. Il y a des départs qui se font de l'ouest du pays, qui se font donc vers l'île italienne de Lampedusa. Alors là, il y a vraiment des types de voyages très différents. On retrouve les fameux rubber boats, mais qui là, il y a à peu près 100 de personnes dessus en général, et c'est des voyages qui sont très mal équipés. En général, les gens qui traversent dans ces conditions, ils n'ont pas du tout assez d'essence pour arriver jusqu'à Lampedusa. Et en fait, les bateaux sont même trop précaires et trop fragiles pour arriver par eux-mêmes. Donc, par exemple, ces bateaux, leur seule chance d'arriver en Europe, c'est d'être secourus en route. Il y a d'autres types de bateaux qu'on appelle des wooden boats, qui sont des bateaux en bois, qui sont aussi construits exprès pour les traverser. Alors, les wooden boats, c'est pareil, il y a en général 100, voire plus d'une centaine de personnes dessus. Et en fait, c'est souvent des bateaux qui ont un double pont. Et le problème de ces bateaux avec le double pont, c'est que pour les personnes qui sont dans le pont inférieur, dans cette espèce de cale, déjà, il y a très peu d'air. Et elles sont soumises à l'inhalation des vapeurs et autres fumées du moteur, ce qui provoque des cas d'intoxication, parfois jusqu'au décès. Et aussi, il faut savoir que le mélange d'essence et d'eau de mer, ça crée des brûlures très graves sur la peau des personnes. Et pareil, du coup, les personnes qui sont dans ces ponts inférieurs, elles sont soumises à ces brûlures-là. Et par contre, il y a aussi des voyages qui se font avec des bateaux en bien meilleures conditions, on va dire, qui ont des moteurs puissants, voire très puissants. Et avec moins de personnes à bord, c'est des bateaux en fibre de verre. de plastique. Du coup, le temps de traversée sur cette route-là, il diffère vraiment beaucoup en fonction de la condition des voyages. C'est une traversée qui peut se faire en 12 heures, comme elle peut se faire en plusieurs jours. Et parce que vraiment, notamment la puissance des moteurs et le nombre de moteurs à bord diffèrent énormément. Ensuite, il y a des départs de l'ouest de la Libye qui se font directement vers la Sicile. Sur la route de la Sicile, il y a une autre île européenne qui est l'île de Malte. Les gens ne vont pas à Malte. On reviendra après sur pourquoi est-ce que les gens n'essayent pas de rejoindre Malte. Mais du coup, il y a des gens qui traversent directement jusqu'à la Sicile. Et ensuite, il y a des départs qui se font depuis l'est de la Libye. Alors, il y en a qui se font de la région de Benghazi jusqu'à l'Italie. C'était le cas du témoignage là, de Chamseddine qu'on a entendu tout à l'heure. Les départs de Benghazi, en général, c'est des voyages qui sont vraiment très mal préparés, très mal équipés. C'est souvent des rubber boats qui ont juste assez d'essence pour atteindre le milieu de la mer, le milieu du parcours, en gros, entre la Libye et l'Italie. Et en général, ils tombent en panne d'essence dans cette zone où il n'y a absolument personne pour les secourir. Et là, en gros, leur seule chance, c'est un peu les navires marchands, comme ce qu'on a entendu dans le podcast. Et il y a une autre route qui est assez récente et qui est très utilisée là depuis un peu plus d'un an. C'est la route entre Tobrouk, qui est vraiment une ville qui est à la limite de la frontière avec l'Égypte, de Tobrouk vers la Crète en Grèce. C'est une route qui s'est ouverte après le naufrage de Pylos, qui est un naufrage qui a eu lieu le 14 juin 2023. Dans lequel il y a environ 750 personnes qui sont mortes. On ne sait pas exactement combien, on sait combien de personnes il y avait à bord, mais en gros, il y a seulement une petite centaine de personnes qui ont survécu à ce naufrage. Et c'est une route qui est plus courte. Les bateaux utilisés, c'est des rubber boats, mais comme la route est plus courte, il y en a qui ont toujours des problèmes de moteur et des problèmes d'essence. Et en tout cas, c'est une route aussi sur laquelle les gardes-côtes grecs, contrairement à ce qui se passe par exemple en mer Égée, font plutôt leur travail et secourent les gens une fois qu'ils sont entrés dans la zone de responsabilité grecque. Voilà. Et donc ça, c'est une route qui est vraiment très empruntée depuis plusieurs mois.
Merci. Et du coup, les zones de responsabilité, donc, c'est ce que c'est la même chose que les zones SAR. On entend parler des zones SAR. Est-ce que tu as envie de préciser ce que c'est exactement et quel rôle elles jouent, quel rôle politique elles jouent dans toute cette histoire ?
Ouais, alors une zone SAR, c'est SAR pour Search and Rescue, recherche et secours. Et en gros, l'idée, c'est que toute la mer est découpée en zones SAR, qui sont les zones dans lesquelles on définit quel État va être responsable de la recherche et du secours dans cette zone pour les personnes qui se retrouvent en détresse. Mais ces zones, en fait, elles sont pas fixes, elles peuvent bouger. Et elles sont objet de discussions et d'accords entre les États et clairement d'enjeux politiques. Par exemple, il y a eu la création de la zone SAR libyenne en 2018, qui est juste après le mémorandum Italie-Libye dont parlait Salah Adine tout à l'heure. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, c'est que du coup, dans une grande zone qui s'étend à plus de 150 km au nord de la Libye, maintenant, c'est la Libye qui est responsable du secours des bateaux en détresse, sur le papier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'un côté, l'Union européenne se désengage, se déresponsabilise complètement de ce qui peut arriver aux personnes qui traversent dans cette zone. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la Libye est libre d'intercepter tous les bateaux qui sont présents dans cette zone et de ramener les personnes qui tentent de traverser d'où elles viennent en Libye, avec les conséquences dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est la même chose avec la création de la zone SAR tunisienne l'année dernière, qui s'est faite juste après l'accord entre l'Union européenne et la Tunisie.
Ok, et une fois que les bateaux sont partis en mer, ça se passe quoi pour les personnes ? C'est quoi les différentes options, possibilités et surtout les différentes histoires ?
Alors, qu'est-ce qui arrive aux personnes une fois qu'elles sont en mer ? Soit elles arrivent à destination, donc en Europe. Soit elles sont interceptées, soit elles font naufrage. Alors, les naufrages, c'est quelque chose qui existe et qui est difficile à quantifier. Par exemple, à l'Armphone, on est régulièrement informé de bateaux qui ont disparu par des proches qui n'ont plus de nouvelles. Ça peut être ce qu'on appelle des naufrages invisibles. Mais en fait, ça peut aussi être des disparitions qui sont liées à des trafics en Libye. Il y a aussi des bateaux qui partent pas et des personnes qui disparaissent de d'autres manières sur cette route. Et pour les personnes qui décèdent en route, c'est toujours difficile à quantifier. Il n'y a pas toujours de corps. C'est vraiment le récit de leurs compagnons et de leurs compagnonnes de voyage qui nous permettent de le savoir. Et donc, on a parlé des interceptions. En gros, le plus gros risque pour les personnes qui traversent, c'est d'être interceptées. On a attendu tout à l'heure ce qui leur arrivait après, quand elles étaient ramenées dans les zones dont elles étaient parties, en Tunisie ou en Libye. On parle de déportation dans le désert, on parle d'enfermement. Pour avoir une petite idée, en 2024, sur les 65 500 personnes qui sont arrivées en Italie et à Malte, mais vraiment surtout en Italie, en plus de ces personnes qui sont, pour les 65 000 personnes qui sont arrivées en Italie, il y a 21 500 personnes qui ont été interceptées et refoulées vers la Libye. Et c'est les chiffres de l'OIM qui sont sans doute sous-estimés, mais il y aurait 1689 personnes qui seraient mortes ou disparues.
Est-ce que tu as envie de nous dire les arrivées autonomes, parce qu'elles existent, c'est quoi les chiffres ?
Ouais, c'est quoi les chiffres ? Mais alors, pour parler des... Est-ce que je peux encore parler des... Ah non, ça sera plus tard. Alors, les arrivées autonomes, je vais retrouver mes petites notes, parce que je me suis un petit peu perdue. Voilà. Alors déjà, ouais, pour les personnes qui arrivent à destination, donc, soit les personnes arrivent seules, soit elles arrivent secourues par les gardes-côtes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gardes-côtes, des fois, ils secourent les gens vraiment sur les derniers kilomètres. C'est juste pour pouvoir, en gros, les amener où ils veulent quand les gens arrivent en Europe. Du coup, en gros, les gens sont arrivés seuls pratiquement jusqu'aux côtes européennes. Et oui, tout à l'heure, on va parler de Sea Rescue, là, juste après. Et sur les arrivées autonomes, je pense que c'est important d'avoir en tête que la plupart des arrivées, elles se font de cette manière-là, elles se font de manière autonome, et que les personnes traversent sans l'aide d'Alarmphone et sans l'aide des ONG. J'ai donné quelques chiffres tout à l'heure. Les personnes secourues par la flotte civile, c'est vraiment une part minime des personnes qui arrivent. Donc on disait qu'en 2024, il y avait eu 65 500 arrivées. Sur ces arrivées-là, il y a seulement 12 500 personnes qui ont été secourues par les ONG. Je ne dis pas ça pour dire que la flotte civile n'est pas utile du tout, mais c'est parce que je pense qu'il faut bien resituer les choses sur le fait que ce n'est pas une histoire de sauveur. Les personnes en mouvement n'ont pas besoin d'être sauvées, c'est une question de solidarité face aux États et face à nos États racistes et coloniaux, de solidarité concrète avec les personnes qui traversent dans les conditions qu'on a évoquées et qui font preuve d'une détermination et d'une créativité constante pour déjouer la forteresse Europe et pour continuer d'y ouvrir des brèches. Et parce que je pense qu'il faut qu'on soit très clair là-dessus, c'est que les brèches, c'est pas nous qui les ouvrons avec nos bateaux et nos téléphones, c'est elles.
Et une dernière petite question, tu as parlé de la flotte civile, parce que tu as envie de nous dire très rapidement, c'est quoi la flotte civile ?
Alors, ce qu'on appelle la flotte civile, en gros, c'est tous les bateaux de secours civils qui sillonnent la Méditerranée centrale pour faire le travail de search and rescue que les États font pas. Ils sont tous concentrés entre la Libye, la Tunisie et l'île de Lampedusa pour différentes raisons. Et ils sont affrétés par des ONG et des collectifs très variés. Il y en a un certain nombre qui sont en Allemagne, mais il y en a aussi en France, en Italie, en Espagne. Et ils ont des lignes politiques assez différentes, mais ils essayent quand même de collaborer au mieux ensemble. Les premiers bateaux de secours civil, ils sont apparus dans la zone en 2014-2015. Enfin, en tout cas, Sea-Watch, ça a été créé en 2014, un an après deux très gros naufrages qu'il y avait eu au large de Lampedusa. Et au moment où les premiers bateaux de la flotte civile sont apparus, la situation était très différente. Il y avait une opération de l'Union européenne en Méditerranée centrale qui faisait qu'il y avait des bateaux militaires européens qui étaient sur place et qui faisaient aussi du secours. Assez rapidement, ces bateaux ont disparu. Et du coup, bah, les bateaux de secours civil sont restés seuls sur la zone. Ça a été aussi le début de la répression contre eux. On va en parler un peu plus après. Et voilà, du coup, aujourd'hui, la flotte civile, je crois, c'est 22 bateaux. Désolée si j'en oublie. Y a aussi des voiliers maintenant et pas mal de petits bateaux. On reparlera aussi plus tard de pourquoi c'est utile d'avoir des petits bateaux. Et j'ajoute qu'il y a aussi 3 avions. 2 avions de Sea-Watch et 1 avion de pilotes volontaires qui font le support aérien.
Merci beaucoup. Et on enchaîne avec Lucie. Lucie, est-ce que toi, tu as envie de nous raconter du coup la ligne politique commune de la Civil Fleet, ce qu'elle tient face à la politique des zones SAR?
Tout à fait.
Écoute, c'est parfait.
Alors, ouais, ça, je vais rentrer un peu dans le technique. Vous me dites si ça prend trop de temps ou si c'est trop deep. Je suis trop près.
alors, c'est bien si t'es plus près de ton micro.
Il faut que je sois plus près. Ouais. Genre, là, c'est trop. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Encore.
Petit calage de micro.
Et c'est parti.
Ok. Bon, il y a un peu 3 niveaux de ce discours politique commun. On peut dire qu'il y en a un qui serait un discours médiatique, qui est une critique de la politique européenne migratoire, un peu minimale, ce qui serait les morts des exilés en mer ne sont pas des morts accidentelles, mais le résultat des politiques européennes d'externalisation des frontières, d'action, de moyens et de financement. Et donc ces morts sont un choix de l'Europe. Ensuite, l'Europe a mis en place un système massif de rapatriement en Libye et en Tunisie. Et en conséquence, les systèmes de sauvetage de l'Europe sont devenus dysfonctionnels parce qu'ils sont concentrés sur cette logique de rapatriement. Et donc, l'Europe ne remplit pas ses devoirs face aux droits maritimes internationaux et à la Convention de Genève. Ça, je vais revenir là-dessus après. Et le but de la Civil Emergency, ici, c'est de garantir le sauvetage des personnes en détresse en mer et de leur assurer un endroit sûr de désembarquement. En droit sûr, ça aussi, je vais revenir là-dessus à l'instant. Il y a un deuxième niveau qui serait un niveau technico-juridico-politique. En fait, il faut capter que le sauvetage en mer, juridiquement, c'est dans un énorme flou parce qu'il y a une superposition des lois maritimes nationales et internationales, des lois terrestres, des droits humains et des lois de la guerre. Donc là, il y a... Je déroule et puis après je vais revenir sur les trucs. Il y a un peu des enjeux qui sont hyper importants, qui se placent genre sur des petits mots qui vont tout changer, enfin qui permettent les conditions d'existence du sauvetage et de la flotte civile. C'est le mot « port sûr », c'est le mot « embarcation en détresse ». La légitimité qu'on accorde. Donc, quand Mathilde tout à l'heure parlait des zones SAR, elle a parlé un peu de la zone SAR libyenne et donc de qu'est-ce qu'une zone SAR. Une zone SAR, c'est pas, ça s'oppose à des eaux territoriales. Dans des eaux territoriales, l'État a genre toute souveraineté. Donc un bateau pas autorisé à rentrer dans une zone qui rentre dans la zone, c'est une violation et ça autorise une réponse militaire. Une zone SAR, c'est une zone où, en fait, l'État à qui est attribuée la zone SAR est censé coordonner les opérations de sauvetage dans cette zone. Donc c'est l'opération que racontait Mathilde avec la Libye, sauf que là, ce qui se passe dans la zone libyenne, c'est que les Libyens, ils n'ont pas les moyens matériels de radiocommunication, enfin, qu'indique la loi, de coordonner ces opérations. Donc c'est une zone bâtarde, tout comme la zone maltaise. Et je vais y revenir. Ouais, je voulais juste préciser le flou juridique. Parce que c'est un peu le nerf de la guerre. En gros, il y a 2 conventions maritimes qui datent des années 70. Une, c'est SOLAS, qui précise que tous les gens qu'on accueille à bord, on est obligé de les accueillir avec humanité. J'insiste sur humanité. Et il y a la convention SAR. Dont on parle depuis tout à l'heure, qui délimite les zones de responsabilité des États, donc les zones SAR, et les moyens obligatoires de radio, de coordination et de matériel, et qui dit, donc noir sur blanc, on a obligation, tout bateau a obligation de porter assistance à toute personne en détresse en mer, sans tenir compte de la nationalité, du statut ni des circonstances. À ça s'ajoute la Convention de Genève, qui est une loi terrienne qui définit le statut des réfugiés. Toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, etc. Cette convention ouvre un droit de résidence et d'accès au travail dans les pays d'arrivée. Et autre truc important de la Convention de Genève, c'est qu'il y a un principe de non-refoulement. Donc on a interdiction, cette convention, de renvoyer les gens dans leur pays d'origine. Et donc là, il y a eu... Ça, c'est un peu ancien, c'est en 2012. Enfin, jusqu'à 2012, c'était vraiment complètement gris. Et à un moment, la Commission européenne des droits de l'homme s'est posée sur cette question de... Est-ce que la Convention de Genève est applicable aux gens qui arrivent par voie maritime ? Ce à quoi ils ont répondu oui. Donc les refoulements, en l'occurrence vers la Libye, devenaient par le de fait illégaux. Et là arrive le droit de la guerre. En fait, sur un autre plan, le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise les pays en guerre contre le trafic d'êtres humains à intercepter tout navire et canot susceptible d'avoir été utilisé pour un trafic illicite de migrants. Et donc là, ça va être ce sur quoi vont se baser Malte et puis l'Italie et l'Europe pour construire tout un appareil répressif. Et donc le troisième aspect un peu, c'est le code d'honneur de la flotte civile. C'est pas un code d'honneur pour avoir un code d'honneur parce que c'est stylé. C'est un code d'honneur qui répond à un code de bonne conduite qui a été imposé par les Italiens en 2017 et qui a fait l'objet de beaucoup de négociations. Putain, j'ai encore perdu les temps. En fait, dans ce code d'honneur, c'était en gros pour que nous, les Italiens, on vous laisse agir dans notre zone SAR, vous, les ONG, vous devez répondre à tel critère. Et donc là-dedans, il y avait des choses raisonnables qui sont un peu... comme ce que demande la Convention SAR, comme l'obligation d'être localisable, l'interdiction d'entrer dans les eaux territoriales libyennes, le respect des consignes du centre de coordination de secours. Donc là, jusque-là, ça va. Et après, rendre compte à Frontex, au ministère de l'Intérieur italien, au ministère de la Santé italien, etc. Et après, ils ont essayé de demander des trucs... plus abusés, comme interdiction de transbordement. Donc le transbordement, ça c'est un aspect plus pratique, mais c'est un peu crucial dans le sauvetage, et ça dépend après à quelle époque. Mais il y a un moment, genre au début des ONG, disons avant 2016-2017, les gens ils ont pas les énormes cargos qu'il y a aujourd'hui, ils ont des plus petits bateaux, et en fait on distingue un peu. Dans le sauvetage, t'as des opérations de patrouille, que font les gros bateaux, donc tu patrouilles dans la mer et tu peux mettre des gens à bord. Et tu as des opérations qui s'appellent de stabilisation. Et donc là, tu vas voir les gens, tu leur distribues de l'eau, des gilets de sauvetage et tu attends les secours avec eux pour y aller à grands traits. Et donc ça, s'il n'y a pas de transbordement, ça rend les opérations de stabilisation très compliquées. Ça a été avorté. Et l'autre chose qu'ils demandaient, c'était ils ont voulu à ce moment-là obliger les ONG à avoir des gens armés, des militaires italiens à bord, quoi, des gens armés à bord. Ça aussi, grosse négociation. Et ça a été avorté. Et c'est de là qu'est sorti ce code d'honneur de l'humanité. Donc ça renvoie à la Convention Solas que je vous disais tout à l'heure, de l'impartialité. Donc ça, c'est on répond au droit maritime international et à personne d'autre, de la transparence. On ne monte pas de blanche, on n'est pas des passeurs, parce que toute la criminalisation qui va se faire après sur les ONG se base sur cette idée du trafic d'êtres humains. Parce que comme je disais tout à l'heure, le droit de la guerre, et c'est un peu sur ça que ça s'appuie. Neutralité et indépendance.
C'est hyper complet, merci beaucoup. J'espère que toutes les personnes qui écoutent s'y sont retrouvées. En tout cas, c'est des choses que vous pouvez retrouver de votre côté et chercher. Mais ça donne un bon petit point de vue global. En tout cas, merci Lucie. Toi, tu étais matelot sur le Sea-Watch il y a quelques années. Et bon, il y a des choses qui ont évolué, ça évolue très vite. On va parler après avec Ada du Pian de Tedosi. Mais en tout cas, toi, quand tu y étais, c'était quoi les contraintes et les stratégies justement avant ce plan-là qui a resserré encore la vis?
Alors moi, quand j'y étais, moi, j'étais à l'époque 2021 et 2022. Un peu une époque post-Covid, quoi. Où on a encore toutes les règles qui sont liées au Covid. Enfin, c'est une époque où... Ouais, bon, je peux partir sur le truc sanitaire d'abord. où en fait, t'as tout un enjeu de désinfection, de tests, de les débarquements. Ils prennent parfois 2 jours. Parce qu'il y a une idée comme ça de... Enfin, il faut que tout le monde soit testé. Et il faut que les bateaux soient désinfectés. Nous, on fait des tests en permanence. On est en quarantaine avant et après les opérations, etc. Et c'est aussi une époque où les gens, quand on les débarque en Sicile... Moi, je pense que c'est un moment où genre, ça a ouvert l'imaginaire répressif un peu. Parce qu'ils partaient plus genre dans le camp... Enfin, ils n'étaient plus dispatchés dans des camps en Sicile par bus, mais ils partaient sur des bateaux, c'était les ferries de Genève, quoi. Ils partaient sur des gros ferries et ils étaient redispatchés après sur les côtes italiennes. Du coup, il y avait un truc de, à ce moment-là, en fait, les gens qui arrivent en Sicile, ils quittent la Sicile du truc du Covid. Et après, plus techniquement, à cette époque-là, la forme que prend la répression un peu, c'est des blocages techniques. Il y a toute une espèce de guerre avec les pavillons. Donc c'est une époque où en fait la flotte civile elle commence à être vraiment bien équipée sur les bateaux. Enfin, il y a des gros bateaux conséquents avec une capacité de 500-600 personnes à bord. Et donc il y a vraiment des grosses patrouilles qui sont effectuées, quoi. Dans les moments forts, les bateaux ils sont tout le temps pleins, quoi, en été quand ils rentrent. Et oui, et à ce moment-là, donc ces bateaux-là qui sont gros, ils sont pavillonnés en cargo, et c'est un des pavillons les plus contraignants, quoi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que Sea-Watch, qui en plus à ce moment-là est méga dans le collimateur, parce que donc c'est pas si loin encore de l'affaire du Sea-Watch 3 qui force l'entrée du port de Lampedusa parce qu'il leur avait demandé d'aller à Tripoli et qu'ils ont dit on va pas faire ça. Vous vous souvenez de cette histoire de Carola Rackete? Et donc les bateaux se font immobiliser pour des raisons techniques. Mais ça peut aller de... les toilettes sont pas aux normes, à des raisons structurelles qui pourraient peut-être être raisonnables. Mais c'est en fait à chaque fois qu'on fait un débarquement quasiment, on a un contrôle technique. Alors que dans la réalité générale du monde maritime, les contrôles techniques de cargo, c'est aléatoirement une fois tous les 5 ans, ça va t'arriver. Et t'as des contrôles un peu plus superficiels, genre une fois par an, quoi. Là, c'est pour les ONG, c'est systématique et c'est des mois de détention administrative après à la clé, potentiellement.
Ça marche, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Ada pour qu'elle nous raconte un peu ce Pian de Tedosi et les mesures de rétorsion mises en place contre la flotte civile, notamment dans les derniers décrets qui ont été pris par le gouvernement italien de Meloni.
Oui, alors merci beaucoup pour le contexte, je vais suivre, mais juste un mot de rappel, si la flotte civile elle est particulièrement concernée par le gouvernement italien, c'est parce que dans cette zone SAR, on n'a pas beaucoup d'autres ports dans lesquels on peut débarquer les personnes de manière sûre, et donc c'est pas forcément le meilleur gouvernement, puisqu'il mobilise énormément l'instrument juridique contre la flotte civile, mais on n'a pas beaucoup d'autres options, à part l'Espagne ou la France, qui serait bien trop loin, et Malte, qui répond jamais. Donc on doit faire avec cet arsenal-là. Et donc, comme Lucie vient de l'expliquer, jusqu'en fin de l'année 2022, il y a eu énormément de tentatives du gouvernement pour bloquer notamment les navires qui procédaient à de la recherche et du sauvetage, et qui partaient d'Italie et qui débarquaient les personnes en Italie. Mais ces tentatives-là du gouvernement ont été bloquées par les cours qu'on dit supérieures en droit, donc des cours européennes. Et donc, ils se sont vus prendre des revers comme ça à chaque fois qu'ils avaient une volonté de bloquer, notamment avec ces contrôles administratifs qui ont été complètement sanctionnés et interdits par la Cour de justice de l'Union européenne à la fin de l'année 2022. Mais très habiles et pleins de ressources, ils ont trouvé une nouvelle façon de nous bloquer en respectant ces nouvelles obligations. Et donc, le gouvernement Meloni a adopté un décret-loi Piente Dossi le 2 janvier 2023 et qui visait à doter l'autorité administrative d'outils réglementaires nécessaires à la gestion des activités SAR civiles et notamment qui s'appelait les dispositions urgentes pour la gestion des flux migratoires. Bref, et en fait, toutes les dispositions dans ce décret Piente Dossi reprennent chaque contestation qu'il y a eu et chaque victoire des ONG contre d'autres obligations. Et ils s'y adaptent vraiment très, très bien. Donc au tout début, la première chose que ce décret-loi dispose, c'est qu'il réaffirme le pouvoir du ministre de l'Intérieur d'interdire l'entrée dans les eaux territoriales de certains bateaux. Et ça avait beaucoup été utilisé par Salvini. Et contesté, notamment il y a eu des procès contre Salvini, etc. Donc là, c'est écrit noir sur blanc. Désormais, ce ministre de l'Intérieur en a le pouvoir. Puis notamment, il dispose de d'autres, énormément d'infractions et de sanctions encourues par les ONG en cas de violation des ordres donnés par les soi-disant autorités compétentes. Et ça, on y reviendra. Parce que je pense que c'est la chose la plus importante du décret-loi Piente Dossi. Pardon. Mais... Il dispose également de nouvelles exigences en termes de sécurité, donc les normes sécuritaires dont Lucie vient de parler, avec la certification des états de pavillon. Donc ça, c'est tous les bateaux qui sont déployés en Méditerranée centrale. En général, ils sont immatriculés dans d'autres pays que l'Italie. Et normalement, en droit, c'est les états dans lesquels ils sont immatriculés qui sont compétents pour les sanctionner. Et là, l'Italie a voulu responsabiliser cet état parce qu'effectivement, c'est... un petit peu injuste, puisque c'est elle qui doit accueillir les personnes qui sont secourues par ces autres, par ces bateaux étrangers, selon elle. Et donc, de forcer ces bateaux à avoir des qualifications qui n'existent même pas dans ces États, et sans ces qualifications-là, pouvoir bloquer ces bateaux. Et donc, c'est la formalisation de ce que Lucie expliquait, qu'ils essayaient déjà de mettre en place, mais qui était tout le temps sanctionné par les tribunaux. Là, ça devient une loi, c'est écrit noir sur blanc dans ce décret-là. Et puis... il y a l'obligation d'informer les personnes secourues de la possibilité de demander l'asile et, si elles le souhaitent, du coup, de collecter leurs données directement à bord du bateau. Ça, depuis, ça a été sanctionné par les cours, mais c'était une tentative de l'Italie pour, du coup, à nouveau se déresponsabiliser de la prise en charge des personnes secourues qui devaient débarquer sur son territoire. Parce que si elles demandaient l'asile dès le moment où elles étaient secourues et à bord d'un navire étranger, c'était à cet état-là de les prendre en charge plus tard. Et puis, donc, peut-être la chose la plus importante, c'est qu'ils... essaye de délégitimer le modus operandi des ONG, comme Lucie le disait. Les ONG avaient en général, à ce moment-là, des gros bateaux, et donc pouvaient se permettre de rester en haute mer et de procéder à plusieurs sauvetages avant de débarquer les personnes sur le continent européen. Et ce décret-loi Piente Dossi, il les oblige à se rendre immédiatement dans le port sûr attribué, parce que avant, le gouvernement Salvini ne donnait aucun port sûr. Et ça a aussi été sanctionné parce qu'ils sont obligés d'en donner un. Et donc pour contourner, ils le font immédiatement et dès le premier sauvetage, c'est-à-dire qu'un bateau désormais qui secourt même 14 personnes dans l'heure, il y a un port sûr italien qui lui est attribué et dans lequel il doit se rendre sans aucun détour. Si jamais il perd du temps sur la route, notamment en procédant à un second sauvetage, ça devient un motif pour pouvoir le sanctionner et l'immobiliser à port. Donc c'est encore un moyen très habile de bloquer les navires, d'autant que ça se double d'une pratique dilatoire, ça s'est pas dit dans le texte, mais les autorités italiennes, avec ce texte-là, se font un malin plaisir à donner systématiquement les ports les plus hauts en Italie, afin de faire perdre. Donc après un seul sauvetage, ça peut être effectivement une dizaine de personnes, en fait les bateaux vont se voir octroyer et obligés d'aller dans ce port, souvent très au nord de l'Italie, ce qui peut faire perdre 4, 5, 6 jours de mer, voire encore plus pour faire l'aller-retour, et donc perdre beaucoup de temps de présence en mer, vider la Méditerranée centrale des navires civils, mais aussi d'argent, puisqu'il faut payer le gasoil pour aller jusque là-bas. Ça, c'est voilà, peut-être le moyen le plus important développé par Piet Sindossi, mais l'autre, qui prend une ampleur particulière en ce moment, c'est l'obligation de collaborer avec les autorités compétentes des autres zones SAR dans lesquelles la flotte civile opère. Et donc là, c'est ce dont a parlé Mathilde au début. Il y a les autorités compétentes des zones SAR tunisiennes et libyennes. Et cette obligation-là de collaborer, elle est un peu flou et contradictoire, notamment avec la convention SAR que tu as mentionnée, Lucie, tout à l'heure, puisque celle-ci dispose de l'obligation de débarquer les personnes dans un lieu sûr. Or, on ne considère pas que la Libye ou la Tunisie soient des lieux sûrs, mais le fait est que les navires qui veulent débarquer en Italie peuvent être du coup sanctionnés et immobilisés lorsqu'ils ne respectent pas des ordres qui seraient donnés par ces autorités-là qui sont considérées compétentes par l'Italie. Donc dans ce même mouvement du code de conduite évoqué plus haut. Et puis dans un même élan, notamment Mathilde tout à l'heure disait qu'il y avait effectivement trois avions civils qui font aussi partie de cette flotte civile. Et jusqu'à présent, le gouvernement italien avait essayé de nous sanctionner, en tout cas de nous rappeler à la loi. Mais il y avait à nouveau eu une victoire devant le tribunal administratif de Rome qui déclarait que les autorités italiennes n'étaient absolument pas compétentes pour sanctionner un aéronef étranger immatriculé à l'étranger qui en plus opère dans des zones SAR qui ne sont pas des zones SAR italiennes et notamment dans les eaux internationales. Et donc là, à nouveau, réaction très habile du gouvernement Meloni d'adopter le décret-loi Flessy. Et donc ce décret-loi, il renforce tout le régime de sanctions des navires, notamment après toutes les contestations des décisions de sanctions qu'il y a eu par les bateaux sur le décret-loi Piante d'Ossi. Ils ont réagi à chaque fois. Et en plus, il crée un régime de sanctions pour les avions. Donc maintenant, les avions peuvent être sanctionnés par les autorités italiennes dès lors qu'ils décollent ou atterrissent sur le territoire italien. Et donc, notamment, les avions sont tenus, lorsqu'ils repèrent une embarcation en détresse, d'informer en priorité et immédiatement les autorités compétentes. Et là, à nouveau, les autorités compétentes, ce sont souvent les autorités tunisiennes ou libyennes, et donc de pouvoir les en informer pour faciliter les interceptions dont on a parlé juste avant. Et puis, d'un point de vue du renforcement du régime des bateaux, un dernier mot, ils ont par exemple, dans le décret-loi Flessy, le gouvernement a fait passer que pour une récidive, même si le capitaine change, le capitaine qui du coup a procédé, de l'équipage qui a procédé au sauvetage et au débarquement, même s'il change, la récidive de la sanction qui a déjà été donnée à cette ONG peut être caractérisée si le propriétaire ou l'armateur du bateau est le même. Et en l'occurrence, comme chaque ONG dispose d'un ou de plusieurs navires, la récidive entre à chaque fois. Et donc, à la première sanction, on risque une immobilisation, que ça soit maintenant avion ou bateau, de 20 jours, puis une deuxième jusqu'à 60 jours, 2 mois. Et à la troisième, c'est carrément la saisie conservatoire du moyen mobilisé. Donc, la récidive est bien plus facile à caractériser et crée qu'il n'y a plus beaucoup de monde en Méditerranée centrale. Je m'arrête là.
Merci beaucoup. On voit le temps qui passe et c'est vrai qu'on aurait envie de vous poser plein de questions et malheureusement, on va avancer un tout petit peu pour essayer d'avoir un petit point de vue global sur tout ça. On a demandé à Chiara, qui est aussi de Sea-Watch. Elle n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais on lui a demandé de nous raconter ce que ça a changé, du coup, ce dont tu viens de parler pour les bateaux de secours et les opérations en zone SAR. On a un petit enregistrement qu'on va lancer maintenant.
Et les décrets Piante d'Ossi et aussi Flussi sont devenus les principaux outils du gouvernement Meloni pour limiter la présence des ONG de sauvetage en Méditerranée centrale. Et donc, pour éviter que leurs bateaux ne soient saisis, la plupart des organisations doivent adapter leur manière d'agir histoire de réduire les risques de se faire immobiliser, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on suit toujours ces décrets à la lettre. Chez Sea-Watch, par exemple, nous arrive volontairement de ne pas nous conformer, même en sachant très bien que ça peut mener à la détention de nos navires, mais aussi de nos bateaux. Et du coup, ce sont des décisions dures à prendre, surtout que beaucoup de ces ordres de blocage du gouvernement Meloni sont totalement arbitraires et parfois même absurdes. Avant, les autorités italiennes s'attaquaient surtout aux gros bateaux, comme par exemple les Sea-Watch 5, Ocean Viking, etc., et multipliant les accusations sans fondement, du genre dire qu'on n'avait pas prévenu les autorités ou qu'on avait mis des personnes en mouvement en danger juste parce que les soi-disant gardes-côtes libyens étaient dans les coins. Mais maintenant, on observe un changement de tactique. Bien sûr, parce que l'Italie s'en prend de plus en plus aux bateaux plus petits, comme l'Aurora, actuellement bloquée à Pozzallo pour des raisons arbitraires, mais aussi des autres bateaux à voile, comme par exemple Nadir, mais aussi Daikini, Sea Ice 5, etc. Et ce n'est pas un hasard, parce que ces petits bateaux aujourd'hui sont les plus efficaces. En fait, les gros bateaux se voient très vite assignés un peu sur après un sauvetage, souvent très loin dans le nord de l'Italie. À moins d'avoir l'autorisation des MRCC Rome, des autorités italiennes, de continuer les opérations, ils ne peuvent pas repartir sous d'autres vies sans risquer la détention. Et en fait, le fait d'envoyer les ONG vers des ports aussi éloignés a de grosses conséquences, en fait. Les coûts explosent, surtout en carburant, par exemple, mais aussi les ressources à bord, des équipages, etc. Mais les conséquences plus grandes sont pour les personnes en mouvement. Ça veut dire que il y a des trajets interminables, parfois plusieurs jours à la mer sur les bateaux des sauvetages avant d'avoir accès à un soutien et en aide immédiate. Et pendant ces bateaux sont coincés sous la route, il y a moins de bateaux présents dans la zone de recherche, et spécialement la zone de recherche libyen, ce qui prive d'autres personnes en mouvement, en danger à la mer, d'une assistance vitale. Et du coup, en fait, pour les personnes en mouvement, il y a beaucoup d'interceptions pour la garde côté libyen. Et donc, il y a beaucoup de gens qui... Et ils sont prendus à la mer et donc il va en Libyen en centre de détention pour deuxième fois, troisième fois.
Du coup, Marie, toi, tu fais partie de Pilotes Volontaires, donc une ONG de repérage aérien et un relais aux autorités incompétentes. Est-ce que tu peux nous faire un point sur l'état de criminalisation des opérations de sauvetage ?
Complètement, merci beaucoup. Je voulais revenir notamment sur ce qui a pu être dit au cours des précédents échanges et sur l'enregistrement que Chiara nous a apporté et les quelques mots qu'elle a eus. Parce que la criminalisation des associations qui agissent en mer Méditerranée, elle a clairement pour objectif, comme le disait très bien Chiara, de vider la mer des acteurs de recherche et de sauvetage. Et pourtant, c'est c'est vraiment dans cette même mer-là qu'à cause des politiques d'externalisation des frontières et à cause des politiques d'anti-immigration européenne, il est devenu en fait essentiel d'assurer cette présence pour une raison simple, en fait, ne pas laisser mourir des gens en mer. Et avec notre équipe, on était présents au mois d'août, enfin il y a quelques jours, quelques semaines encore, au-dessus de la mer Méditerranée, et on a clairement été témoins du système répressif, et ça de plusieurs manières. Et ça reprend vraiment en fait les différents éléments qui ont été apportés précédemment. Le fait que les bateaux de sauvetage soient amenés de plus en plus loin vide vraiment cette mer et fait aussi qu'au-delà du fait que plus personne ne puisse effectuer de sauvetage sur place, il n'y a aussi plus personne pour témoigner de la violence du régime frontalier, pour témoigner de ce que font les milices libyennes. Les seuls acteurs présents sont les milices libyennes, qui sont par ailleurs financées par l'argent européen. Et en plus de ça, elles deviennent de plus en plus agressives. Elles ont tiré il y a quelques semaines sur un des navires de sauvetage, le navire de sauvetage de SOS Méditerranée. Comme d'ailleurs l'illustrait très bien Cara, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais la criminalisation des bateaux de sauvetage est de plus en plus haute. Enfin, cet été, ça a été assez incroyable le nombre de petits bateaux, mais aussi de gros qui ont été détenus. Et en fait, en plein mois d'août, on est arrivé à des jours où il n'y avait personne en mer pour effectuer ces sauvetages. Et c'est assez effrayant et catastrophique au vu de la situation. Parce que comme on est en relais et comme on est en contact avec Alarm Fund, par exemple, on sait très bien que les traversées, elles continuent, que les naufrages, ils continuent d'arriver. Et que si on n'est pas présent, ça ne fait qu'empirer la situation. Et comme le disait Ada précisément il y a quelques minutes, avec ce nouveau décret de loi Flussi, le gouvernement italien a réussi à trouver une technique pour détenir également les avions qui font de la recherche au-dessus de la mer Méditerranée. Et nous, depuis le 5 septembre, notre avion, le Colibri 2, il a été immobilisé par les autorités italiennes. Pour quelles raisons ? Parce qu'on refuse notamment d'alerter systématiquement les milices libyennes qui ramènent les personnes rescapées dans des camps où, on le sait tous, elles subissent la torture, l'exploitation et les abus. Et pour nous, c'est clairement un no-go de faire ça. Et pourtant, ce nouveau décret de loi Flussi, il exige ça de nous. Et c'est une attaque, cette détention, c'est une attaque directe contre nos actions, mais aussi contre toutes les organisations qui tentent de porter secours en mer. En fait, tout simplement parce que nous défendons le droit de vivre de chacun chacune et la dignité de tous et toutes. On est immobilisés pendant 20 jours et nous risquons une amende de 100 000 euros pour une association qui est vraiment pas très grosse. C'est énorme. Enfin, genre, ils ont bien compris le système pour mettre à terre les associations qui essayent de s'organiser citoyennement et civilement pour essayer de pallier cette urgence à laquelle les États ne répondent pas. Ces décrets de loi, ils sont injustes et illégaux, ils respectent aucunement les droits internationaux et viennent briser ou tentent de briser tout geste de solidarité présent dans cette mer. Et un peu en conclusion, la mer Méditerranée, aujourd'hui, elle est devenue un espace où la répression étatique imposée par les régimes frontaliers, elle s'est intensifiée et c'est un vrai choix politique. Ce qu'il y a de plus terrifiant, c'est qu'en ayant cette attitude, en portant cette politique, l'Union européenne et ses gouvernements, ils participent de manière très explicite aux violences que subissent les personnes exilées et participent par-dessus tout à la mort de certaines personnes.
Merci beaucoup pour votre présence et pour vos mots. On va profiter d'une petite pause musicale. Je crois que c'est Lucie qui a choisi la chanson pour effectuer un changement de plateau et accueillir les nouveaux invités. Restez avec nous.
روح يا شبتي روح Ba 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 ba